France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's in the house.
Halim, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
C'est quoi être palestinien, palestinienne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça donne quand une palestinienne vivant à Londres, originaire de Haïfa, joue Hamlet à Ramallah? C'est l'intrigue du roman d'Isabella Ahmad que nous sommes très heureux de recevoir, à qui on a évidemment envie de demander aussi comment écrire sur la Palestine désormais depuis Gaza. Gaza au cœur de l'actualité ce soir encore avec les bombardements israéliens à Doha, où sont les dirigeants du Hamas qui négocient. Louise Baudet est là pour donner du sens aux conséquences de ces bombardements dans le monde à l'endroit. Le reportage nous donnera un peu d'air, nous sommes à viennent dans des logements dits sensibles au genre.
En tant que femme, l'aspect de la sécurité a été très important. Je l'ai vraiment remarqué lorsque ma fille a commencé à sortir. Quand j'allais la chercher dans d'autres immeubles, il faisait sombre et il y avait peu d'éclairage, ce qui n'est vraiment pas le cas ici.
Un reportage signé Isoria, ce que vous découvrirez vers 18h40. Sous les radars, Guillaume Audat a déniché les arrestations de Sud-Coréens en Géorgie, aux États-Unis qui mettent Séoul en colère. Et puis Caroline Gillet, au pays des 27, a rencontré une commissaire européenne très très atypique, je ne vous en dis pas plus. Le monde est vaste et on n'a pas une heure, allons-y.
Speak, I'll go no further.
Mark me,
I will.
My hour is almost come. When I to sulfurous and tormenting flames.
Bonsoir Isabella Ahmad. Merci beaucoup d'être avec nous. Bien sûr qu'on a mis un extrait d'Hamlet pour entamer cette discussion. C'est l'acte 1, scène 5, version audio de la BBC 2002. Hamlet face au fantôme de son père, parce que votre livre, qui s'appelle Hamlet le long du mur, raconte donc l'histoire de Sonia. Elle est anglo-palestinienne, comme vous. Elle prend un aller simple pour Haïfa, où vit sa sœur. Donc c'est une famille de Palestiniens de 48, comme on dit. Sonia est actrice à Londres. Elle se retrouve dans une production d'Hamlet à Ramallah, en arabe. On fait beaucoup d'allers-retours, Isabella Ahmad, dans votre livre, entre la pièce et la vraie vie. La pièce est d'ailleurs un personnage principal et je n'ai pas pu m'empêcher de penser, en vous lisant, que Hamlet se termine dans un bain de sang. Il n'y a pas un survivant dans cette affaire. Est-ce que vous aussi, vous l'avez eu en tête à un moment, en écrivant, au-delà même de toute actualité récente, est-ce que vous vous êtes dit « Je sais qu'Hamlet finit dans un bain de sang » et c'est aussi ça l'histoire du livre?
Non, je m'intéressais plus au fait de penser à Hamlet en tant que combattant de la liberté. Ce genre de résonance de Hamlet, par exemple, le fantôme, l'injonction des générations précédentes à la jeunesse pour venger les crimes du passé. Donc je réfléchissais plus à ces échos-là entre Hamlet et la cause palestinienne quand on pense à l'oppression des Palestiniens par le régime israélien. Bien sûr, quand on considère le génocide à Gaza, les connotations du livre changent, mais j'ai commencé à l'écrire en 2017, il a été publié en 2023 au printemps, donc la situation a changé récemment.
J'ai appris en vous lisant et en me documentant que Hamlet était interdit dans certaines prisons israéliennes où étaient des Palestiniens, parce que précisément, to be or not to be est presque un signe de ralliement pour les Palestiniens.
Oui, c'est intéressant. Le livre a été interdit. On considère que c'est un texte dangereux. Les autorités d'occupation israélienne le considèrent. C'était aussi le cas en Égypte, sous Nasser, où ça a été traduit en « serons-nous ou ne serons-nous pas ». Donc c'est vraiment rentré dans la conscience politique des peuples arabes. Et je jouais encore une fois avec ces différents échos, ces différentes résonances, mais je ne me limitais pas à une seule interprétation de la pièce de théâtre. Je voulais voir ce qu'il adviendrait lorsqu'on ferait une fiction autour de la production de cette pièce en Palestine.
On va y venir effectivement à ce qu'on peut mettre derrière Hamlet. Votre personnage, Isabella Ahmad, n'est pas partie pour jouer une pièce en Palestine. Elle y est embarquée et puis finalement elle reste. Elle joue la mère d'Hamlet, Gertrude, et cette femme qui avait mis au fond la Palestine derrière elle dans son histoire et fera frappé, vous dites, par un impact charnel, par une mémoire des sens. Est-ce que ça ressemble aussi, au fond, à votre relation à la Palestine, vous qui avez été élevé à Londres, donc à la fois complexe, à la fois charnel, à la fois intellectuel, à la fois émotionnel? Ça dit aussi tout ça de vous, peut-être?
Ce n'est pas une fiction autobiographique. J'ai grandi dans la diaspora, donc j'étais très familière des Palestiniens de la diaspora qui sont engagés dans la cause palestinienne, mais j'étais aussi connectée à ceux qui voulaient s'assimiler dans les pays où ils se retrouvaient en exil. Le roman est une expression de la manière dont les Palestiniens entretiennent des rapports les uns aux autres, tout en parlant aussi du rapport à la Palestine. Donc, en fait, ça implique des Palestiniens de différentes origines géographiques, de différents statuts juridiques. Sonia vient de la diaspora, mais sa famille vient des territoires. Ils font partie de ceux qui ont survécu au nettoyage ethnique de 1948. Et on explore dans le roman les interrelations entre les différents membres de ce corps politique palestinien fracturé.
La pièce Hamlet va se dérouler à Ramallah. Vos personnages, effectivement, vous le dites, vivent à Haïfa dans les territoires de 48. Et la question, effectivement, c'est au fond, c'est quoi aujourd'hui être palestinien et est-ce que c'est différent que l'on soit palestinien vivant à Londres comme vous, d'Haïfa ou des territoires? Le père de votre personnage a des mots extrêmement jolis. Il dit à un moment, il m'a fallu quitter la Palestine pour la connaître vraiment.
The question is what?
Et du coup, je me demandais jusqu'à... Ça revient à la question, c'est quoi être palestinien, au fond, et en quoi ça résonne avec cette phrase?
Ça fait deux ans qu'un processus de génocide brutal a débuté à Gaza. C'est une expression continue du désir d'extermination du projet sioniste qui cherche le territoire sans le peuple. Et durant cette période, dans le roman, j'explore l'ambivalence du rapport des Palestiniens de la diaspora à la cause face à cette atrocité, cette famine organisée. 70 000 personnes ont été massacrées. Il y a eu des assassinats de journalistes, énormément d'assassinats de journalistes ces deux dernières années, plus que dans de nombreuses guerres précédentes. Il y a même des gens qui ne sont pas palestiniens face à ces événements cataclysmiques se sentent palestiniens. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire que d'être palestinien aujourd'hui, mais je pense qu'on devrait tous parler au nom de la Palestine pour mettre fin à ce génocide qui détruit beaucoup plus que les vies des Palestiniens, et il faut mettre un terme à cela le plus vite possible.
Il y a d'ailleurs une sorte de postface à votre livre, Isabella Ahmad, qui s'appelle « Reconnaître l'étranger » au tract Gallimard, qui est une conférence que vous avez donnée. On n'est pas encore au 7 octobre l'annoncier. Vous avez donc fait une postface à la postface pour dénoncer effectivement les massacres de Gaza. Et je me demandais au fond si, avec le recul, quand vous voyez votre livre aujourd'hui, qui a été écrit bien avant, vous vous dites qu'il est d'autant plus utile, ou est-ce que vous êtes submergé par un sentiment d'inutilité, justement?
Je ressens les deux choses en même temps. Je me sens tout à fait inutile et je sens en même temps le besoin de continuer à parler avec mes collègues dans la sphère culturelle. Le tract était étrangement pressant et il faut que l'on s'assure, que le monde s'assure que ce soit vraiment un changement de paradigme, s'assurer qu'on ne rentre pas dans une nouvelle norme de négation des règles internationales, qu'on ne rentre pas dans la destruction totale de tout consensus international, qu'on ne rentre pas dans une ère de crimes contre l'humanité. On a le devoir d'empêcher des crimes contre l'humanité comme le génocide. Donc j'ai l'espoir qu'on y arrivera. On voit plus de soutien pour la liberté palestinienne et le droit des Palestiniens à la vie. On en voit Plus que jamais au niveau international, néanmoins, il n'y a pas de volonté politique là où ça compte chez les acteurs internationaux, on est toujours en attente. Mais le tract en lui-même, le discours en lui-même, j'espère qu'il est utile, j'espère qu'il sera utile, c'est tout ce que je peux dire.
Il y a cette scène incroyable dans votre livre qui résonne au fond avec ce que vous venez de nous dire. L'un de vos personnages veut revoir son ancienne maison qui est donc occupée aujourd'hui par un Israélien. Il a la nostalgie de ça et il est très mal reçu par cet Israélien qui lui dit « la nostalgie c'est bien mais partez ». Et la conclusion qu'on lui offre quand ce personnage raconte est très shakespearienne et très Hamlet, mais finalement parle aussi de ce qui se passe aujourd'hui. On lui répond « il a eu peur de toi, tu es un spectre pour lui ». Alors c'est moi le fantôme, dit votre personnage, et on lui répond « nous les hantons, ils veulent nous tuer mais nous refusons de mourir, même aujourd'hui, alors que nous avons presque tout perdu ». Et vous le disiez, vous avez écrit ce livre à partir de 2017, ça résonne étrangement avec ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, le titre anglais c'est Enter Ghost et c'est un livre plein de fantômes. Et l'un des fantômes que j'explorais, c'était la manière dont les Palestiniens sont en fait des fantômes pour les Israéliens, puisque ce sont ceux qui reviennent sans arrêt, les revenants de l'oppression. Et on parle là de la persistance des Palestiniens. Golda Meir a dit les vieux mourront et les jeunes oublieront, et on a prouvé que c'était faux.
Vous nous l'avez dit, vous faites des allers-retours constants dans les interprétations d'Hamlet, et au fond, chacun peut y trouver ce qu'il veut. Vous laissez au lecteur le choix de lire derrière la pièce de Shakespeare. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Est-ce que c'est la Palestine? Est-ce que c'est Israël? Comment l'interpréter? Vous mélangez aussi les styles, puisqu'il y a parfois un style théâtral, et on sait bien qu'Hamlet, c'est aussi une pièce à l'intérieur d'une pièce. Est-ce que c'est aussi ça que vous vouliez, là que vous voulez nous emmener à réfléchir, nous mettre dans cet abîme-là, nous le lecteur.
Je voulais employer l'idée du théâtre en Palestine en tant que métaphore ou outil pour explorer la théâtralité de l'exercice du pouvoir par l'État colonial, l'État d'apartheid, et dans le cadre aussi de la résistance à cette oppression, la manière dont le théâtre nous permet de considérer, d'observer ces réalités politiques à partir d'angles différents. Donc je voulais vraiment aborder ça comme ça, mais aussi je voulais en jouer, je voulais que mes personnages jouent. Et donc tout cela est présent dans le livre, mais on ne se réduit pas à une interprétation particulière.
La grand-mère d'un de vos personnages dit, elle le dit en 1994, et cette phrase est réveillée par vos personnages, elle dit ceci: « Même si je ne peux pas y vivre, mon âme se réveillera s'il y a un État palestinien ». Ce que j'ai envie de vous demander, Isabella Ahmad, c'est si vous craignez d'être la génération qui ne le verra jamais, au point où nous en sommes, cet État palestinien, ou si au contraire, vous êtes persuadé toujours d'être la génération qui verra la naissance d'un État palestinien, un vrai.
C'est très difficile de répondre à cette question. En ce moment, on voit ces massacres de masse, ces attaques ciblées, délibérées, et une tentative du régime israélien d'éradiquer toute possibilité de libération et d'autodétermination palestinienne. Donc je ne sais pas si je peux parler de d'espoir ou de détermination. On peut parler de l'optimisme, de la volonté, du pessimisme, de l'intellect dans les de Gramsci, mais je pense que nous ne devons pas nous focaliser sur l'établissement d'un État, on doit parler de désionisation, de libération, ça doit être un État laïque, on doit mettre fin au nationalisme ethnique.
Est-ce que l'auteur que vous êtes, Isabella Ahmad, se dit que vous ne pourrez plus écrire sur la Palestine de la même manière, désormais, depuis le 7 octobre, et tout ce qui s'est passé à Gaza derrière?
Je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il est impossible aujourd'hui de revisiter l'histoire palestinienne sans avoir le mot génocide à l'esprit. Il y a eu des attaques sur les vies palestiniennes historiquement, et on peut maintenant les décrire comme génocidaires. Avant, on n'avait pas accès à ce mot. Actuellement, c'est très difficile pour moi d'écrire directement directement sur la Palestine. Donc j'écris sur d'autres choses en termes de fiction, parce que quand on écrit de la fiction, il faut être dans un monde créatif, un monde onirique, et c'est très différent quand on fait face à ces atrocités au quotidien.
En tout cas, ça s'appelle Hamlet, le long du mur, signé Isabella Ahmad. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. La traduction de votre livre, et d'ailleurs aussi du tract Gallimard qui va avec, est assurée par José Camoun, et la traduction ce soir, c'est celle de Victor Acheguerri. Merci beaucoup. La suite, ce soir, c'est Un jour dans le monde, et c'est Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit. On va rester autour de ces mêmes sujets, Louise.
Décapiter le Hamas de l'extérieur, quitte à frapper ses négociateurs. Nouvelle ligne rouge franchie aujourd'hui par Israël avec le soutien américain.
Allez, c'est tout de suite après ça.
Life is just like a settlement, waiting for you to cash on it. Life is just like a bike, it don't move unless you better than less. About who is better and more about who blessing them. Softer than gelatin, peanuts to elephants. You dumb as a boceros if you think it's irrelevant. My granny been popping Zanny since CBS met the nanny. My mammy dandy, she tripper than Annie. And I'm not talking to family, but I've been dreaming of fishing since I've been watching the Grammys. And I'm here to stay like the shit in your panties. I need some standing ovation since y'all can't seem to understand me. I might look fly in the matrix, I hope I'm sticking my landing.
No need to bring fall back in August, September. You should just fall back in. Wait. Who wants to clear the fog and all the smog in your mirrors? Well, you could just fall back in. Wait. Delete your call log and clear your agenda. You should just eat what's on your.
To my crib, still a baby by day, bad bitch by night, still applying my gloss from red to green light. Niggas calling my phone, bitches calling my phone, private calling my phone, blocking you off my phone. Bill collectors, roach and bug inspectors calling my phone. Who you checking if I'm disrespecting you with my tone?
No need to bring fall back in.
Doechi et Wait, Grammy du meilleur album rap, figurez-vous. Wait est dans la playlist de France Inter et c'est le choix de Djoubaka, le programmateur musical d'Un jour dans le monde. Louise Baudet remet le monde à l'endroit.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et retour d'une certaine façon, Louise, sur le sujet qui nous occupait avec notre invité. Et cette question, pourquoi cette frappe d'Israël sur Doha cet après-midi est une nouvelle ligne rouge franchie par Israël?
Oui, une nouvelle ligne rouge et promesse tenue, celle de détruire le Hamas après l'attaque du 7 octobre 2023. Le Hamas de l'intérieur, dans la bande de Gaza, et celui de l'extérieur, le 31 juillet de l'an dernier. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, est tué en Iran par une frappe israélienne ciblée. Voilà pour l'ennemi de l'extérieur. Moins de trois mois plus tard, le 17 octobre, c'est le tour de Yahya Sinwar, chef du Hamas de l'intérieur et cerveau de l'attaque du 7 octobre, tué lui dans la bande de Gaza. Message aux ennemis d'Israël, l'armée et les services de renseignement du Mossad finiront toujours par vous retrouver où que vous soyez. Message aussi au peuple israélien, car le traumatisme du 7 octobre s'est doublé d'une crise de confiance vis-à-vis des forces de sécurité qui n'ont pas su anticiper l'attaque du Hamas, alors que le primat de la sécurité est constitutif de l'État hébreu et de son contrat social.
Et à ce titre, le Hamas n'est pas la seule cible d'Israël.
Oui, la cible, c'est l'Iran et l'ensemble de ses proxys, comme on les appelle, ces groupes armés qui constituent l'axe de la résistance emmenée par le régime des Mollahs. Hamas, Hezbollah libanais, gardiens de la révolution en Syrie, Houthis au Yémen, tous méthodiquement ciblés par Israël, qui décapite littéralement le Hezbollah libanais à l'automne de l'année dernière, avec son opération Beeper, des milliers d'appareils piégés qui explosent simultanément dans tout le pays. Attaque spectaculaire dans la foulée de l'élimination du chef du mouvement Hassan Nasrallah le 27 septembre dans la banlieue de Beyrouth.
Des assassinats ciblés donc, hein, Louise, et une guerre ouverte avec Téhéran.
Oui, la guerre dite des 12 jours. Benjamin Netanyahou passe à l'acte dans la nuit du 12 au 13 juin dernier, alors qu'un round de négociations entre l'Iran et les États-Unis à propos du programme nucléaire de Téhéran est prévu 3 jours plus tard. Donald Trump, qui se voulait faiseur de paix, change de pied et donne son accord. Il entre lui-même dans le conflit le 22 juin en ordonnant le bombardement de 3 sites nucléaires iraniens. Cette guerre-là est le point d'orgue de la guerre des 7 fronts qu'Israël dit mener pour sa sécurité. À Gaza, en Iran, au Liban, au Yémen, en Cisjordanie, en Israël et pour les communautés juives qui sont visées partout à travers le monde.
Et dans le franchissement de ces lignes rouges successives, le soutien américain est une donnée essentielle.
Oui, d'ailleurs, la Maison-Blanche l'annonce. Elle a été prévenue à l'avance des frappes d'aujourd'hui à Doha. Impossible pour Israël de mener une telle opération sans l'aval des États-Unis, qui sont par ailleurs un allié du Qatar, détiennent sur son sol une base militaire de 10 000 hommes et assurent la sécurité du ciel qatari. Les États-Unis, à l'initiative d'un nouveau round de négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, négociations pour lesquelles se réunissaient justement les responsables du Hamas visés à Doha. De quoi alimenter la suspicion dans le monde arabe vis-à-vis d'une Amérique qui se présente comme intermédiaire mais soutient sans limite son allié israélien. Jusqu'ici, on respectait les limites que l'Amérique nous fixait, m'expliquait il y a quelques jours un diplomate israélien. Mais le problème avec Trump, c'est qu'il n'y a plus de limites alors que la politique israélienne a besoin de garde-fous pour tenir ses propres rênes. Commentaires qui prennent un relief particulier après cette nouvelle ligne rouge franchie aujourd'hui au Qatar.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage d'un jour dans le monde va nous faire respirer. Ce soir, nous sommes en Autriche, à Vienne, capitale de l'urbanisme dit sensible au genre. La ville a lancé, il y a près de 30 ans, un projet pilote. Mais de quoi on parle ? Eh bien, d'architecture mieux adaptée à tous, d'architecture sécurisante pour les enfants. Il n'y a pas de marche pour mieux circuler avec les poussettes, par exemple. Et pas d'endroit sombre non plus et insécurisant pour les femmes. Le reste, c'est Tizorias qui raconte.
Avec ses façades blanches, ses nombreux espaces verts et ses parties communes à l'entretien impeccable, Frauenwerkstatt paraît très moderne. Cet ensemble de logements sociaux a pourtant été achevé en 1997. Un projet pilote intégrant pour la première fois les principes de l'urbanisme sensible au genre.
Ma partie commence ici. Il n'y a pas de marche. Chaque entrée est facilement accessible avec une poussette, qui à l'époque n'allait pas encore de soi.
Elsa Prochaska est l'une des 4 femmes architectes à avoir conçu Frauenwerkstatt.
L'une des exigences était que les logements soient adaptés à la vie quotidienne. Une autre était de ne pas se limiter au cadre classique père, mère, enfant, mais de développer des plans d'habitation qui permettent la cohabitation de communautés très différentes et intègrent aussi les évolutions en ce qui concerne le temps des habitantes. Par exemple, il était à Vienne très courant alors que les machines à laver collectives soient installées à la cave. On y descendait avec les enfants et l'atmosphère était assez sombre. Mon idée a donc été d'aménager une terrasse avec les machines à laver afin que, pendant que celle-ci tourne, on puisse s'asseoir dehors et que les enfants puissent jouer, etc.
Une attention particulière a également été apportée à la lumière omniprésente et aux nombreuses fenêtres qui permettent de toujours voir ce qui se passe dans les espaces communs et de toujours être vu, offrant ainsi aux habitantes un sentiment de sécurité. De nombreux détails qui n'en sont pas et qui font une réelle différence au quotidien, témoigne Sabineux, qui habite l'ensemble depuis près de 30 ans.
J'ai été malade, j'ai eu un cancer du sein et j'ai dû faire une chimiothérapie. C'est le genre de situation où on se rend compte qu'ici, nous avons tout à portée de main. Il y a un médecin, une pharmacie, un supermarché. Il y a aussi une crèche dans l'ensemble, ce qui était très pratique pour moi quand mes enfants étaient petits. Et en tant que femme, l'aspect de la sécurité a été très important. Je l'ai vraiment remarqué lorsque ma fille a commencé à sortir. Quand j'allais la chercher dans d'autres immeubles, je remarquais la différence car il faisait sombre et il y avait peu d'éclairage, ce qui n'est vraiment pas le cas ici.
La ville de Vienne fait figure de modèle en matière de gender planning, cette politique d'urbanisme sensible au genre qui vise à ce que la ville soit mieux adaptée à tous et notamment aux femmes. Cela couvre des domaines très très larges, par exemple le réaménagement de parcs pour que ceux-ci soient plus accueillants pour les petites filles, mais aussi rendre plus facile le care work, terme qui désigne le travail de soins comme la prise en charge des enfants. Certains y voient un risque que cela renforce les rôles liés au genre, mais ce n'est pas le cas, explique Julia Girardi-Hogg, en charge de ce domaine à la mairie de Vienne.
En facilitant le care work, nous ne disons pas qui doit le faire. Nous faisons plutôt appel à l'expertise des personnes qui le font le plus, à savoir les femmes. Mais cela facilite également la tâche des hommes qui devront s'en charger davantage à l'avenir. Et ainsi nous garantissons une plus grande égalité. Grâce à une architecture de qualité, nous disposons de beaux parcs où de nombreuses adolescentes jouent et où il fait bon se promener avec des enfants. Mais nous ne pouvons pas changer la perception de la maternité, et celle-ci est très forte dans l'espace germanophone et héritée de l'histoire. La planification seule ne peut pas changer cela rapidement, il faut le reconnaître.
Cette politique d'urbanisme sensible au genre est l'un des facteurs qui permet à Vienne d'être depuis des années en tête des classements internationaux pour la qualité de vie.
Eh ben voilà, merci beaucoup Isorias pour le reportage. À très vite bien sûr. La suite, c'est Guillaume Audat qui a été la chercher sous les radars, Guillaume.
Oui, en Iran, en Chine, qui se tourne vers son secteur civil. Civil, j'ai bien dit civil, pour développer de nouvelles armes dopées à l'intelligence artificielle.
Et Caroline Gillet, au pays des 27. Caroline, quelle porte poussons-nous donc?
Celle du bureau d'une commissaire européenne, la plus atypique des 27, la plus drôle peut-être, la plus belge en fait, Adja Labib.
Allez, à tout de suite les amis, avant cela un petit tour à la fois par les États-Unis et aussi par l'Alsace. Le mélange donne Poky Lafarge. La chanson s'appelle Lucky Something sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Sometimes d'ailleurs, pas something, sometimes.
Waiting tables at the burger stand. You are sitting alone. I came up for your order and asked you what you want. You said, do you really want to know? Just got to town, I didn't have a friend. No, I didn't even have a car. Down at the three clubs I wrote you a poem and you bought the drinks at the bar. Oh, then you fell in love with me. Yes, you did. You took me to A from Z. Yes, you did. There was something you could see. I was broken, I was poor. Then you said I could be yours, though I don't have a dime. Even bums get lucky sometimes. Something, yeah, just for hanging around. Even bums get lucky sometimes.
Lucky Sometimes, Poky Lafarge sur France Inter. Et qu'est-ce qu'on voit sous les radars? Eh bien, Guillaume Audat le sait. Ce qu'on voit d'abord ce soir, Guillaume, c'est une information qui tourne en boucle depuis une semaine à Séoul. L'arrestation brutale aux États-Unis d'ouvriers sud-coréens par la police anti-immigration.
Et oui, parce que les méthodes employées par la ICE, la police anti-immigration américaine, ont plus que choqué en Corée du Sud. Imaginez cela, des hélicoptères, des dizaines de véhicules et des gros bras qui prennent d'assaut une gigantesque usine du constructeur automobile Hyundai dans l'état de Géorgie. Et bien sûr, sur des caméras opportunément invitées à filmer la scène. 300 ouvriers sud-coréens arrêtés, enchaînés, sommés de présenter leur passeport. Beaucoup de ces visas avaient expiré. Tous ont été conduits dans un centre de détention et depuis, leur histoire est racontée chaque jour par tous les médias sud-coréens qui parlent de trahison américaine. Le ministre des Affaires étrangères de ce pays est en route pour Washington. Un avion va rapatrier ses 300 compatriotes chez eux. Séoul est furieuse parce qu'elle a investi 350 milliards de dollars aux États-Unis précisément pour obtenir des droits de douane plus avantageux et des visas pour ses travailleurs étrangers. De son côté, Donald Trump jubile. Il demande maintenant aux autorités coréennes que les usines Hyundai aux États-Unis embauchent des ouvriers américains.
China's latest AI breakthrough has leapfrogged the world. Nvidia
are down. Et voici un thème développé quasiment tous les jours sur les networks américains, la compétition avec la Chine en matière d'intelligence artificielle, notamment dans le secteur de la défense.
Oui, et surtout depuis que la grande parade militaire à Pékin a eu lieu la semaine dernière et que les spécialistes du secteur ont observé avec la plus scrupuleuse des attentions, tant la Chine a fait étalage de son engouement pour les intelligences artificielles entre les soldats, les missiles et les chars de combat. On a vu des drones navals, des chasseurs autonomes, des chiens robots, tous pilotés par les IA, destinés à donner un avantage décisif sur les champs de bataille de demain. Les États-Unis continuent à investir massivement, à rivaliser, mais ce qui inquiète au plus haut sommet du côté de Washington, c'est que les chercheurs de la faculté de Georgetown viennent de révéler que l'armée chinoise ne se contente plus de recourir à des sous-traitants de défense appartenant à l'État. Elle s'inspire désormais des partenariats privés-publics américains. Pékin fait désormais appel à des centaines de prestataires privés et des universités civiles pour développer ses systèmes d'armement. La Chine veut aller vite dans le domaine des IA militaires. Elle ambitionne de supplanter les États-Unis en 2030. Washington songe à répliquer en taxant davantage des entreprises civiles chinoises. Cette guerre qui vient sera tout autant commerciale.
No tourist. All the tourists is afraid. Maybe the.
Nos touristes. L'homme qu'on entend s'appelle Abou Hachem. Il est propriétaire, Guillaume, d'un restaurant à Petra, en Jordanie, où plus personne, ou presque, ne met les pieds.
Voilà, Petra, un joyau architectural du royaume hachémite, taillé dans la roche et les falaises du désert jordanien. Ça évoque forcément mille images en vous et peut-être même Indiana Jones. Petra, désertée depuis le 7 octobre 2023, depuis qu'en représailles au Hamas, Israël mène une guerre à outrance contre la bande de Gaza. Ce Jordanien, il nous dit que Gaza, c'est loin de son pays, mais en réalité, au Moyen-Orient, tout est finalement si proche, les hommes, les distances, la situation, tout tient dans un mouchoir de poche. La semaine dernière, la télévision jordanienne a révélé l'ampleur de la catastrophe à Petra. Près de la moitié des hôtels ont fermé, des dizaines de magasins ont baissé le rideau. Là-bas, le tourisme a chuté de 60%. Il y a parfois de légères, très légères éclaircies, mais très vite obscurcies en Jordanie par les orages d'acier qui grondent à Gaza.
Guillaume Audin, merci beaucoup. Vous revenez demain dans Un jour dans le monde, le mardi. Caroline Gillet ouvre les portes de l'Europe et il y a des courants d'air.
France Inter, le 18-20.
Caroline, ce soir, je suis fière de vous. Vous avez enfin, un an et demi de chronique quand même, atteint les hautes sphères, deux ans presque, les hautes sphères, et vous dressez le portrait d'une des 27 commissaires, la voilà, de l'Union européenne. C'est l'équivalent d'une ministre, un peu particulière celle-là quand même.
Oui, Hadja Labib, la commissaire belge en poste comme les autres depuis 9 mois, elle a repris plusieurs portefeuilles, dont celui de l'aide humanitaire qu'elle coordonne depuis l'ERCC, le Centre d'urgence de l'aide européenne. Et alors que d'habitude, je vois des fonctionnaires dans le cadre intimiste, parfois tristounes de leur bureau, là on m'a organisé une visite presse et c'est le show. Comme la commissaire est une ancienne journaliste, je trouve ça drôle d'emblée de lui demander quelles questions elle me conseillerait de lui poser. Elle rigole, elle aurait pu me conseiller de faire moins la maline et d'allumer mon enregistreur, j'avais oublié. Et donc cette chronique commence avec un milieu de phrase.
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a un shift d'équipe qui se relaie donc pour que il y ait toujours une réponse quand un pays est submergé face à un événement naturel, par exemple.
Elle parle donc ici du mécanisme européen de protection civile. C'est quoi ? Quand un pays est frappé par une catastrophe et demande de l'aide aux voisins...
Pour les épidémies, pour les inondations, les tremblements de terre, les cyclones, les pollutions chimiques...
Une équipe européenne est envoyée pour coordonner les ressources envoyées, pour pas qu'il y ait de doublons, pour que l'aide soit ajustée aux besoins, et aussi s'il y a des manques, complétée avec des moyens européens.
Ça, ça montre ce qu'on a fait pendant toute cette saison.
Tous les bureaux sont orientés vers l'avant de la salle, où il y a plusieurs écrans, dont un avec une grande carte qui indique les lieux d'intervention. Ça ressemble un peu aux salles où on fait décoller les fusées dans les films.
On a déployé près de 700 hommes, des pompiers qui sont venus de 14 pays, dans 4 pays à risque. L'Espagne, le Portugal, la Grèce, la France. Les pays les plus touchés cet été par les incendies de forêt. Il y a eu des cas cet été, comme l'été a été dramatique, où les ministres m'appellent et me demandent de maintenir les moyens sur place, les camions, les pompiers, alors que, par exemple, nous sommes confrontés à des choix cruciaux entre la Grèce, l'Albanie, par exemple. Et donc, voilà, à un moment donné, on doit faire le pour, le contre, savoir qui est le plus dans le besoin, puisque plus d'un million d'hectares sont partis en fumée. C'est la situation la plus dramatique depuis 2006.
On est 15 dans la pièce, tout le monde nous regarde, enfin surtout, ils regardent la commissaire, à qui ça tient visiblement à cœur que je serre toutes les mains et que je pose des questions à tous ceux qui sont là. Il y a des pompiers.
Voilà, on a aussi des experts de terrain qui sont représentés ici.
Hassan, qui vient de Turquie.
Ici, Hassan, qui est là pour 2 semaines.
J'essaie de trouver à chaque fois une question à leur poser, par politesse. Ils répondent en anglais que globalement tout se passe bien.
We are very happy to work here with my colleagues.
Un certain
Johan
qui vient de Suède.
Suède, ok, nice to meet you.
Yeah. Vous avez vu que j'ai toujours mon grab bag avec moi.
Ah, c'est quoi c'est... ça
c'est...
Ah, mais oui, le
résilience.
Ah, c'était ce sac-là.
Ce sac, c'est celui qu'on voit sur une vidéo aux 4 millions de vues postée par l'équipe de la commissaire. Adja Labib voulait communiquer sur sa stratégie pour la préparation aux crises, alors il y parodie les tutos beauté et sort d'un tout petit sac, donc tout ce que l'UE conseille aux Européens d'avoir à la maison en cas de catastrophe.
It's Adja Labib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition.
Tout pour pouvoir être autosuffisant pour au moins 72 heures. De l'eau, des conserves, ses lunettes, ses papiers d'identité, dans une pochette plastifiée, dit-elle, obligatoire à Bruxelles, vu la météo. Un jeu de cartes, des allumettes, un chargeur, du cash. Et une radio pour avoir les nouvelles. Le ton de la vidéo est inhabituel pour les institutions européennes. Elle fait le buzz, mais on la critique en Espagne, où elle est publiée peu après les inondations de Valence. On ne rigole pas de ces sujets. Marine Le Pen, quant à elle, la trouve trop alarmiste.
Be prepared, be safe.
On passe dans une autre salle. De nouveau des écrans et des équipes de partout. Il y a un Allemand, un Français.
Pour ma part, je m'occupe du Moyen-Orient.
Et d'autres sujets difficiles.
Notre principale opération étant les évacuations médicales de Gaza. Ce sont des opérations qui prennent un certain temps pour se mettre en place parce que ça nécessite énormément de coordination, que ce soit avec les États membres ou les pays par lesquels on va passer pour ces évacuations médicales.
Il y a combien de personnes, vous savez, qui ont été évacuées de Gaza par votre équipe ?
Presque 1000. Il y a une famine, on est à plus de 60 000 morts, il y a des tueries auprès des points de distribution mis en place par GHF. Voilà pourquoi nous ne voulons pas collaborer avec eux. Il nous appartient aujourd'hui, puisque la presse internationale est interdite, de le dénoncer haut et fort.
D'accord. Je me permets, mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 20 ans.
Avant qu'on parte, le collègue français interpelle la commissaire.
On a passé une semaine ensemble en Afghanistan.
C'est vrai.
Au sein d'Afghanistan libre.
Ah oui.
Vous vous souvenez ?
Incroyable.
J'étais dans une autre carrière à l'époque. Oui,
oui. À l'époque, Adja Labib était journaliste. Ici, d'ailleurs, elle est surtout connue pour avoir présenté le journal télévisé de la RTBF pendant 20 ans et avoir été envoyée spéciale, notamment en Afghanistan, où elle a aussi tourné un documentaire.
Ici, c'est là qu'on organise les fêtes.
En sortant, on passe par le hall, très grand, avec des colonnes. Je demande si c'est ici qu'on fait les fêtes. Elle répond oui, les colonnes, c'est pour le pole dance.
Là, on circule entre vos différents lieux d'intervention. On voit au loin, au bout de la rue, la commission. C'est quel étage, vous ?
C'est le 9e.
Le 9e. Il est bien, le 9e ? Je vais faire une confidence. J'ai appris récemment que ma maman, qui était femme de ménage, a travaillé à la commission et elle nettoyait le 9e et le 10e. Je me souvenais quand j'étais petite qu'elle partait, qu'elle était prise dans une camionnette et puis qu'ils allaient nettoyer des bureaux. Et puis l'autre jour, elle me dit « Mais tu sais, ce bâtiment à Schumann, c'est là que tu travailles ?»« Oui. » Et en fait, elle m'a appris ça, donc ça m'a fait tout drôle.
Ah oui.
Donc,
et
voilà,
elle, ça lui a fait quoi ?
Ben, je crois que plus rien ne l'étonne de ma part. Ma pauvre maman.
Elle a la, voilà, la semaine prochaine, on raconte ça, son histoire. Eh ben, on attend, on a hâte. Merci beaucoup, Caroline Gillet, bien sûr. Au Pays des 27 à mardi prochain.